14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1, ici vous le savez, c'est vous qui avez la parole. Vous êtes peut-être d'ailleurs aujourd'hui en train de nous écouter et demain, vous serez à l'antenne avec nous pour nous parler de vos projets, de ce que vous faites, de votre implication. Car nous avons bien conscience que c'est vous qui faites bouger la France. Et paradoxalement, avec le confinement, le mouvement ne s'est pas arrêté. Bien au contraire, il s'est juste exprimé autrement. Avec la crise du coronavirus, on a aussi vu la boîte à idées sourire un peu plus. Vous savez peut-être que l'application Stop Covid sera bientôt dans nos vies. Elle est en test, mais vous allez voir que certains n'ont pas attendu pour les accueillir. Elle est à mes côtés, comme chaque jour. Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Eh oui, on a vu ces dernières semaines que les choses progressaient très vite, notamment en matière d'innovation. Vous allez voir que c'est vrai aussi en ce qui concerne le coronavirus. Bonjour Simon Mombray.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez AEC, qui est une entreprise, et avec d'autres entrepreneurs, justement, vous avez monté, vous, un projet que vous avez baptisé Stop V. Qu'est-ce que c'est Stop V et comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce projet? Racontez-moi.
Au tout début, c'est parti sur une discussion comme une discussion de café de commerce, au tout début du confinement, sur ce que
c'est souvent
faire.
Comme ça que ça démarre. Hein.
Exactement, et notamment on regardait ce qui se faisait à l'époque en Corée, qui était un pays qui était vraiment pointé, qui était mis en avant sur la gestion de cette crise, et comment ils arrivaient à suivre les malades, suivre les malades avant justement qu'ils aient des symptômes, avant qu'ils contaminent d'autres personnes, et ils le faisaient en les suivant, en utilisant pas mal d'outils, et on s'est dit tiens, est-ce qu'on pourrait faire ça en France? Alors que, avec la GRPD, on ne pouvait pas le faire puisqu'on ne pouvait pas croiser les données comme ils le faisaient en Corée. Donc on s'est dit, tiens, une appli pourrait permettre de faire la même chose.
Oui, donc en faisant attention à la protection des données personnelles, puisque c'est de ça que vous parlez en l'occurrence avec le RGPD.
Exactement. Et le RGPD, c'est la protection des données personnelles. En France, on ne peut pas faire ce qui a été fait en Corée ou en Israël. Et on s'est dit, tiens, comment le faire? Eh bien, avec une appli. Et on a commencé ce projet à ce moment-là.
Alors, comment est-ce que vous avez fait, justement, pour créer une appli qui puisse être en accord avec ce fameux RGPD?
Alors, le principe même d'une appli, c'est qu'on la prend et qu'on donne son accord. À partir du moment où on donne son accord, on a le droit d'utiliser ces données. La réalité, c'est que les applis dont on parle, c'est des applis qui récupèrent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'informations que ce que vous confiez tous les jours à Facebook, Google ou à d'autres applis. Le problème, il n'est pas tant l'information que vous donnez, c'est à qui vous la donnez et l'accord que vous donnez. Lorsque dans les solutions qui ont été mises en place en Israël ou en Corée, il y a plein de données qui étaient récupérées sans l'accord des personnes, leurs données de géolocalisation de téléphone par le croisement des antennes ou les commandes et les retraits en carte bancaire. Là, toutes les données qui sont données le sont avec l'accord de l'utilisateur. Et c'est des données qui finalement sont uniquement la géolocalisation.
Alors justement, qu'est-ce qu'il y a dans votre appli qui permet d'être aussi efficace et aussi pertinent? Vous montrez la probabilité, par exemple, d'être infecté pour chaque utilisateur?
Exactement. Donc la grosse différence avec l'appli qui est pressentie par le gouvernement, c'est que l'appli qui est pressentie, l'appli Stop Covid, en fait, est une appli qui ne doit que tracer les contacts. Mais finalement, qui ne sait pas d'autre chose que le contact que vous avez avec une personne infectée. On n'en sait pas, ça ne donne pas réellement d'informations sur la probabilité que vous avez d'être infecté. Si je prends un exemple un peu grossier, on imagine que l'application soit utilisée par tout le monde, donc le meilleur cas de figure, que tout le monde donne toutes les personnes testées positives, toutes les personnes infectées aient eu un test et rentre ce test dans l'appli. On imagine qu'il y ait 5% des utilisateurs qui soient infectés à un instant T. Eh bien, lorsque vous vous baladez, par exemple, vous êtes à Paris, vous allez au travail, vous croisez au moins 100 personnes,
oui.
Notamment dans le métro. Eh bien, cette appli dira que identifiera 98% des gens comme ayant croisé un porteur, une personne infectée.
Comment vous avez fait? Vous avez classé par catégorie, on est soit non porteur, soit infecté, soit contagieux?
Alors, l'idée, c'est de savoir qu'on est infecté à un instant T. Et l'idée, c'est d'avoir cette vraie probabilité. Puisque, en fait, savoir qu'on a croisé quelqu'un ne donne pas cette probabilité. Donc, soit amène à des solutions qui ne sont pas vraiment efficaces, c'est-à-dire qu'en gros, tout le monde a croisé quelqu'un de porte infecté, donc du coup, on ne sait pas comment le traiter. Ou alors, parce que les gens n'ont pas vraiment rempli les informations, ou alors parce qu'on a été infecté sans croiser quelqu'un, en touchant une porte de poignée de porte, finalement, on n'est pas au courant. Donc finalement, on se rend compte que cette application ne donne pas de probabilité. Nous, on donne juste la probabilité à un instant T d'être infecté.
Et de cette l'instant T, comme vous dites, c'est un instant T, donc ça peut bouger. Donc ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas demain.
Alors justement, je crois que l'idée, c'est qu'on puisse s'en servir quasiment tous les jours de votre appli.
Eh bien, c'est ça. C'est que l'application, en fait, Olivier Véran avait dit, à un moment donné, on ne peut pas tester tout le monde tous les jours. Et aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut pas le faire. Et on se rend bien compte que la gestion de la crise serait complètement différente si on pouvait le faire. Et l'idée de cette appli, c'est de pouvoir le faire avec un certain degré de précision. Donc de pouvoir changer réellement la façon dont on peut gérer une crise sanitaire comme celle d'aujourd'hui.
Alors vous restez avec nous, Elisabeth, on s'aperçoit que les choses vont très vite, en matière d'intelligence artificielle notamment. Je crois que vous avez trouvé une piste qui vient d'une école pour mieux anticiper par exemple les suites de la maladie.
Oui, tout à fait. Ça a été suivi par l'INCREA. Ce sont deux chercheurs qui ont participé à la mise en œuvre d'une expérimentation pour mieux lire les clichés de radiographie, pour mieux diagnostiquer les pneumonies infectieuses et mieux anticiper les suites de la maladie. C'est une application qui pourrait être une des solutions XR Covid. En gros, sur des bandelettes, on dépose une goutte de sang, la caméra de votre smartphone la scanne automatiquement la bandelette, et un algorithme, donc c'est là où l'intelligence artificielle intervient, lit les données à la place du personnel médical et affiche les résultats. Vous avez aussi, on connaît bien Covidia.
Oui.
C'est une intelligence artificielle qui pourrait prédire si vous allez être testé positif. Hein. Ce sont des chercheurs qui identifient les personnes susceptibles d'avoir la maladie. Voilà. Et là aussi, ça réunit deux types d'acteurs, des experts du domaine médical et des spécialistes de l'intelligence artificielle, parce que l'un ne va pas sans l'autre pour mettre en place des modèles et traiter des données. La Covidia peut exploiter les données démographiques, les données liées aux personnes malades, aux personnes porteuses. Et donc l'idée, c'est de parvenir à remonter, parce que c'est là la clé, c'est de remonter jusqu'au foyer de contagion et de prévoir donc les contaminations potentielles à venir.
Vous restez avec nous, Simon. Je voudrais qu'on aille du côté de la Réunion où les choses avancent aussi. On a pris les devants là-bas. Alfred Chanpan est avec nous. Bonjour Alfred.
Oui, bonjour Madame Duchemin.
Merci d'être avec nous. Vous portez-vous le projet Alerte à nous. Alors ça s'écrit A-L-E-R-T-A-N-O-O, hein, je le précise.
Exactement.
C'est une initiative qui est à la fois publique et privée, qui est menée par un collectif là aussi d'entrepreneurs. Cette appli que vous avez conçue, elle vise à nous permettre quoi ? De recevoir justement des notifications pour savoir si on est ou pas exposé au virus ?
Oui, précisément, c'est bien Alerte à nous le nom de l'application, ce qui veut dire en créole réunionnais Alerte-moi ou Alerte-nous. L'idée de l'application est que au lieu d'avoir un système de dénonciation à l'ARS et d'avoir une application coercitive, nous avons préféré faire une application plutôt collaborative qui permet en fait qui permet à chaque citoyen d'être responsable et solidaire par rapport aux autres personnes en pouvant les alerter si jamais donc vous tombez malade. Donc c'est simplement un système qui enregistre les interactions, qui échange des ID anonymes en fait entre téléphones quand vous les croisez, et qui permet de les recontacter par la suite de façon anonyme par le biais d'un serveur qui remonte donc les informations de croisement et qui permet de retoucher ces personnes-là par leur téléphone pour les avertir justement d'un risque de contamination potentielle.
Oui. L'idée, c'est de savoir combien de personnes ont été potentiellement infectées, combien de personnes on a pu croiser et donc d'intervenir pour briser cette fameuse chaîne de contamination.
Oui, précisément. L'idée, c'est que c'est par la somme des petits changements des comportements individuels que nous pourrons apporter éventuellement un grand changement dans la progression de cette maladie. L'idée étant qu'une personne avertie en vaut deux. L'idée, c'est que si vous êtes averti que vous avez été exposé à la maladie, évidemment, vous pourrez prendre des mesures de distanciation sociale à nouveau, par exemple, par rapport à votre famille, de porter le masque à nouveau et de faire attention, effectivement.
Ces mesures, elles sont, dites-vous, adaptées particulièrement aux territoires comme l'île de la Réunion. Mais pour que ça soit vraiment efficace, il faut qu'il y ait 7 personnes sur 10 finalement qui téléchargent l'appli. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ?
Alors, à la Réunion, nous avons un taux d'équipement en téléphone mobile assez impressionnant. Je crois que 80% de la population a un smartphone ici à La Réunion. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais je pense qu'on est bien équipé ici à La Réunion. L'autre facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est que chaque individu ne croise pas la totalité de la population réunionnaise tous les jours. En fait, très souvent, quand vous regardez les personnes que vous croisez, surtout dans un contexte comme à La Réunion où il n'y a pas de RER, pas de métro, pas tellement de transports en commun, les gens croisent systématiquement les mêmes personnes tous les jours. Donc il suffit que 70% des gens que vous croisez les installent. Et c'est là où nous aurons une campagne de marketing viral qui incitera les gens à faire installer l'application par les personnes qui croisent couramment.
Stop V et Alerte à nous, deux applis qui vont s'avérer précieuses hein, dans cette période de déconfinement que nous sommes en train de vivre. Merci d'avoir été avec nous, il est 13h18 sur Europe 1. Europe 1. L'autre moyen de mesurer notre contagiosité, c'est la prise de température. Et vous allez voir qu'elle se développe à vitesse grand V sur notre territoire. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h20 sur Europe 1. Quand on a commencé à mieux connaître le coronavirus, on s'est aperçu que dans la plupart des cas, l'un des symptômes évident, c'était à chaque fois la présence de fièvre. C'est donc un moyen relativement efficace hein, de savoir si la personne qui va par exemple franchir la porte du bureau est malade ou pas, avant même qu'elle ne le sache elle-même parfois. Bonjour Clément Hubert.
Bonjour Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous. Vous co-dirigez le groupe Procédo qui est un groupe de sécurité. Vous avez dans votre arsenal, hein, l'arsenal que vous proposez aux entreprises notamment, des caméras thermiques. L'avantage finalement de ce système, c'est de pouvoir les installer aux entrées des immeubles, des centres commerciaux et de ne pas être dépisté un par un avec un thermomètre. Ça permet une détection un peu plus massive.
Exactement. Alors, ça a deux avantages principaux. Contrairement au thermomètre infrarouge sur la prise frontale qu'on peut voir à certains endroits, la prise de température est faite entre 1 et 5 mètres de la caméra. C'est-à-dire qu'on a un respect total de la distanciation sociale, qui est un des éléments importants pour lutter contre la pandémie du Covid. Et de plus, la prise de température est absolument immédiate. Ça prend moins d'une seconde. On peut tester la température de 30 personnes simultanément. Donc c'est très efficace pour faire un premier tri, un premier filtrage sur la base de la fièvre.
Oui, vous avez senti que les choses allaient changer en la matière et du coup vous en avez commandé un nombre assez conséquent. Vous en avez installé combien à l'heure actuelle de ces caméras ?
Alors en effet, on a passé des commandes dès la fin du mois de mars quand on a vu ce qui se passait en Asie où il y avait beaucoup de prises de température qui étaient faites pour le déconfinement. Et dès le mois de mars, on a passé commande d'un peu plus de 200 caméras thermiques sous différents formats, des caméras portables, des bornes autonomes qui permettent de faire un contrôle de la personne en direct. Et aujourd'hui, on a installé sur ces 200 caméras un peu plus de 170.
Ah oui, 170, ce sont des grands groupes qui vous les demandent, ce sont des immeubles d'habitation, ce sont des entreprises.
Alors, les premiers sites qu'on a équipés, c'était pendant le confinement, les sites logistiques qui ont été fortement mis à contribution, les grandes surfaces alimentaires, et depuis le 11 mai, depuis le déconfinement, les immeubles de bureaux, beaucoup d'immeubles à la Défense, et aussi des collectivités, des mairies qui se posent des questions, et certains qui ont déjà été équipés.
Alors, ce qu'on n'a pas précisé, et c'est peut-être important de le dire, c'est que ça mesure non seulement la température, mais ça repère aussi si nous ne portons pas de masque.
Exactement. Les caméras sont des caméras intelligentes. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est l'intelligence artificielle. Oui. On peut détecter si la personne porte un masque ou non. Aujourd'hui, comme les masques sont obligatoires dans les transports en commun, comme chaque commerçant peut décider du port du masque ou non dans son commerce, ça permet un gain de temps et ça permet de filtrer les personnes très rapidement.
Elisabeth, en matière justement de surveillance thermique, vous avez trouvé d'autres entreprises ?
Oui, vous avez l'entreprise française Distram. Eux, ils sont spécialistes de la métrologie. Ils ont lancé une gamme complète pour répondre à ce besoin nouveau. Ils misent surtout sur la caméra thermique parce qu'elle ne nécessite pas le besoin d'une personne à temps plein. Donc déjà, ça peut être intéressant pour les entreprises. Ils mettent en avant les caméras thermiques avec deux modèles qui proposés qui permettent de prendre les températures, Elles mesurent en continu la température. Elles sont prises à 1,5 m, 2 mètres de distance. Et ils proposent aussi des bornes sans contact qui mesurent la température des personnes qui se présentent devant ces bornes. Elles sont vendues pour être posées sur des présentoirs. Et donc, elles permettent un autocontrôle de la température à l'entrée des locaux. Vous avez aussi l'entreprise Konica Minolta. Alors ça, c'est une entreprise japonaise, mais elle s'associe à une start-up française, Too-Eye, qui propose un outil d'analyse des flux vidéo. C'est-à-dire qu'ils arrivent à détecter rapidement une température corporelle trop élevée. Et là aussi, c'est un peu ce que vous disiez à l'instant, c'est qu'elle permet aussi le respect des gestes barrières, comme le port du masque, le port du masque, la distance physique. Là, ce dispositif est installé sur un chariot qui est positionnable dans des espaces restreints. Et il combine à la fois la caméra thermique, un écran double affichage et des outils d'analyse statistique.
Et oui, on progresse à grande vitesse en ce moment. C'est aussi le cas chez vous, chez Black Body Care. Bonjour Bruno du Servidalé.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez mis au point un projet qui s'appelle Sentinelle. C'est une borne d'autocontrôle de température. Qu'est-ce qu'on entend par borne? On passe dessous?
Alors non, pas du tout. C'est comme une borne de renseignement classique, c'est-à-dire qu'on se présente devant et il y a une caméra optique et une caméra thermique, de le même principe que ce qui a été décrit avant. Mm-hmm. L'idée, c'est zéro contact et c'est que, par contre, que ça soit une démarche volontaire. C'est-à-dire que ça ne soit pas un flux vidéo où vous passez, vous êtes filmé par des caméras de surveillance, que ça soit vraiment le principe d'un selfie. C'est-à-dire d'aller se présenter à la borne et soi-même de se tester exactement de la même manière que on fait aujourd'hui des selfies.
Comme un photomaton finalement. On se met dans le cadre et ça prend la photo de la température corporelle.
Alors, on se met dans le cadre, ça prend la photo, ça mesure la température corporelle, ça vérifie aussi le port du masque.
Oui.
Et comme on travaille à l'origine sur des grands chantiers, ça peut vérifier aussi le port du casque et on est en train de travailler sur le port des lunettes. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse se regarder comme dans un miroir et que ça soit quelque chose qui se passe entre soi et son miroir et qui permette de vérifier qu'on a bien son masque, son casque et qu'on n'a pas de fièvre.
Alors, vous êtes allé très vite pour développer Sentinelle. Vous avez mis 6 semaines pour ce produit spécifique qui est nomade. Et ça aussi, c'est un gros avantage.
Alors, tout à fait. L'idée de faire un produit nomade, c'est qu'on avait... Alors, comme je vous ai dit, on travaille sur des grands chantiers. Donc, dans des chantiers, l'infrastructure n'est finalement pas simple. Et puis, on s'est rendu compte que l'ensemble des sites, un aéroport comme un restaurant, d'avoir un produit nomade qui se pose devant une entrée ou une porte d'enregistrement, ça permet de travailler en flexibilité, de pouvoir proposer aux clients un point pour se contrôler sans que ça soit une vraie infrastructure compliquée et demandant de l'installation et de l'expertise.
Et ça peut être installé dans les écoles, les crèches, les entreprises, un petit peu partout finalement, c'est aussi ça l'avantage.
Ça peut se mettre partout dans le sens où il y a juste besoin soit d'une prise électrique, soit d'avoir rechargé la batterie. Et après, ça fonctionne comme une tablette, ce que aujourd'hui quand même beaucoup de gens savent utiliser. Mm-hmm. Ça fonctionne en continu, ça ne demande rien. Dès que ça repère un visage, ça fait la mesure. Et voilà.
Et voilà, comme vous dites, et c'est vrai qu'on va en voir fleurir de plus en plus de ces nouveaux dispositifs qui sont en train d'arriver dans nos vies. Merci d'avoir été avec nous. La France Bouge continue. 13h29.
Europe 1.
Va-t-on les voir fleurir justement, ces fameuses bornes? Sont-elles les nouveaux photomatons qui vont régir nos vies aux entrées des immeubles? Vous allez voir que oui, les options sont multiples. À tout de suite.
Europe 1. La France Bouge. Raphaël Duchemin.
13h30 sur Europe 1, on a bien compris que nous allions devoir surveiller notre température pour essayer de faire attention au maximum, ne pas contaminer les autres, voire tenter de juguler la propagation du virus. Et tout ça dépend aussi évidemment du nombre de personnes que l'on va croiser par jour, si elles sont ou non infectées. Alors pour nous aider, vous allez voir que des sociétés ont imaginé de nouveaux dispositifs. Bonjour Arnaud Molinier.
Bonjour, Raphaël Dumont.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Oxamed. Vous dites que cette crise sanitaire, finalement, elle a agi comme un révélateur, notamment sur l'offre de télémédecine. Et du coup, vous vous êtes dit qu'il faut peut-être profiter de cette opportunité pour creuser le sillon davantage pour la phase de déconfinement en créant des unités mobiles de diagnostic et de dépistage.
Alors, profiter de l'opportunité, pas vraiment, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça oblige de réfléchir et d'agir différemment hein, dans ces phases-là. Et donc, on a eu l'idée, en effet, avec Gérard Després, qui est le patron de l'Oxam, et puis Eric Seban, vous parliez de température, oui. Eric est l'inventeur du thermoflash, hein, des thermomètres, mm-hmm. qu'on met sur les fronts des enfants à distance, de créer justement une espèce de petite cabine de télémédecine high-tech. Et Eric Seban était aussi l'inventeur du VideoCheck, qui est un gros thermomètre. La différence du thermomètre, c'est qu'il prend une vingtaine de constantes médicales. Et donc, au début du confinement, on s'est réunis à quelques-uns et on a eu l'idée de panacher dans un module de 15 mètres carrés cet appareil qui est le VideoCheck, connecté à une plateforme de télémédecine, oui. Qui est la plateforme de télémédecine Teledoc, qui est dirigée, qui a été créée par un type remarquable qui est le docteur Teboul, François Teboul, et qui permettait, si vous voulez, en toute mobilité, puisque on installe nos modules en 48 heures montre en main, de s'installer dans des zones à risque ou de guerre, d'une certaine manière, puisque le président Macron parlait de la guerre, oui. et donc pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Donc on a checké, on a fait évaluer cette idée-là par le professeur Philippe Juvin, oui. qui est le patron des urgences de Pompidou il y a un mois et demi,
bien sûr.
Qui a trouvé l'idée très bonne, qui l'a validée. On devait l'installer à Pompidou, ça s'est pas fait.
Oui, hein, mais ça y est, il est installé dans le 19e.
Et on a parlé à Hidalgo, voilà, qui a trouvé ça formidable et qui nous a demandé, il y a maintenant un peu plus de 3 semaines, d'installer ça en urgence dans le 19e arrondissement. Au pied d'un foyer de travailleurs migrants du 19e arrondissement. Il y a 400 personnes qui sont dans ce foyer. Ça fait 3 semaines que ça fonctionne.
Et vous avez des premiers retours, hein, parce que vous avez combien de personnes déjà testées ?
On a 250 personnes qui ont été testées. On a déjà réussi à sauver trois vies, puisqu'il y a des personnes qui étaient déjà par la pathologie Covid, mais une qui n'était pas d'ailleurs en pathologie Covid, qu'on a dû faire prendre en charge par les urgences et par le SAMU ou la Croix-Rouge française. Et on a pu diagnostiquer et confirmation d'une quarantaine de cas de Covid qui ont été aiguillés vers les bons endroits pour qu'ils soient plus. Qui se mettent en protection eux-mêmes de leur santé et qui surtout protègent les autres. Donc ce module sert à la fois, si vous voulez, de mini-consultation médicale, hein, mm-hmm. c'est-à-dire quand le patient se retrouve en face de l'écran, il est en face d'un médecin qui est chez lui, hein, qui reçoit les constantes du patient chez lui, qui analyse les données du patient en direct devant le patient, mais en visioconférence d'une certaine manière. Et le médecin de chez lui fait une ordonnance, dit au patient quand il s'agit de symptômes Covid, d'aller faire un test PCR. Mm-hmm. Et à ce moment-là, le patient fait le test PCR, c'est remboursé par la Sécurité sociale d'ailleurs,
et le
processus se met en place.
Le gros avantage finalement, c'est qu'on n'a pas à aller en laboratoire. Finalement, c'est le laboratoire qui vient à nous. C'est un peu ça l'idée, on est en proximité.
Au pied de chez vous, si vous voulez. Et d'ailleurs, on est en proximité, c'est-à-dire que c'est vraiment l'hôpital de campagne qui se déplace.
Oui, on n'atteint du coup pas les mêmes populations. On atteint des populations qui seraient peut-être passées hors radar.
Des endroits où des populations, on parle des migrants, il y a plus de 1000 migrants sur Paris et ça approche banlieue, si vous voulez, ce sont des personnes qui n'ont pas accès aux médecins de ville, d'ailleurs qui s'en méfient beaucoup parce que de temps en temps elles sont pas assurées et elles ne savent pas comment procéder pour avoir accès aux médecins de ville. Donc on donne accès à des populations et quand il s'agit de crise sanitaire comme on vit en ce moment, c'est absolument majeur, hein, on est en plein déconfinement. Donc d'ailleurs, il y a un plan de déploiement qui est prévu pour aller plus loin que le centre de la commanderie, hein, puisqu'il y a d'autres migrants dans Paris ou autour de Paris, si vous voulez. Mais ça permet en effet de donner accès au plus près des populations. Alors, les populations fragiles comme les populations de migrants, c'est une chose, mais ce module sert bien évidemment dans plein d'autres cas. Pour le déconfinement des entreprises, par exemple, il y a énormément d'entreprises qui nous ont sollicité, après qu'on ait parlé de notre expérience sur
du coup, vous allez pouvoir en mettre combien à disposition alors aujourd'hui ?
Alors, on a, chez Loxamed, on a une capacité de déploiement de plus de 300 sur la région Île-de-France, et quasiment l'équivalent dans le reste de la France.
Voilà. Je voudrais que vous restiez avec nous, donner la parole quelques minutes à Elisabeth, parce que c'est important, ces questions de dépistage. Et, et du coup, Elisabeth, il y a une carte qui peut nous aider aussi, pour une carte qui est en ligne et qui regroupe les drives.
Ça nous regroupe les drives de dépistage. C'est sur le site drivecovid.fr. Depuis le début de l'épidémie, on l'a vu, il y a eu des drives de dépistage qui ont été installés en France. L'idée, c'est de permettre à n'importe quel patient de se faire dépister sans descendre de la voiture. On le voit en France et partout ailleurs, c'est une formule qui a fait ses preuves. Et depuis ce week-end, il y a une carte qui permet donc sur drivecovid.fr de recenser les emplacements des laboratoires qui proposent cette prestation, qui proposent ces drives. C'est une carte qui a plus de 600 points de contact pour chaque laboratoire qui propose un dépistage du Covid sous forme de drive. On peut donc connaître ses coordonnées et les modalités des différentes prises de rendez-vous.
Ouais, c'est important effectivement cette notion d'information de dispositif en ligne. On reste ensemble, Arnaud Molinier, et on va rejoindre Hervé Diers, qui dirige la société Edimac. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Avec la crise, vous avez vu finalement votre chiffre d'affaires diminuer. Vous n'êtes pas au départ dans le médical, pas du tout même. Vous construisez des remorques, des baraques à frites. Mais là, vous vous êtes dit, avec nos systèmes mobiles, on peut peut-être faire quelque chose, imaginer un nouveau concept. Donc votre baraque à frites, elle est devenue remorque de dépistage.
Exactement. Dès le confinement, je cherchais quelque chose, pouvoir faire quelque chose avec l'entreprise, parce qu'on est complètement arrêté. Nous, on construit des véhicules magasins pour les marchés, et évidemment, tout s'est arrêté. Et bon, j'ai cherché à faire reprendre un petit peu mon entreprise, et j'ai eu l'idée, en fait, j'ai fait un Photoshop avec une baraque à frites, et on l'a transformé en laboratoire. On a envoyé un peu cette photo dans pas mal de labos, et puis forcément, on a eu des retours, et on a vraiment conçu un labo mobile qui peut se déplacer d'un endroit à l'autre. Et on a des labos qui nous ont passé commande.
Oui, vous en avez fabriqué combien de ces laboratoires mobiles aujourd'hui ?
On en a fabriqué 3 en urgence, parce qu'il en fallait 3 tout de suite. On les a livrés vendredi passé. On a une série de 6 en construction actuellement. Et c'est le matériel neuf qu'on construit. Et on a énormément d'appels de labos en ce moment. Ça répond à leur demande, puisqu'ils doivent aller dépister dans des endroits différents, notamment dans les gendarmeries et autres. Et
vous avez imaginé un croquis qui ressemblerait à une friterie au départ, et puis après, il a fallu, j'imagine, faire appel à des spécialistes pour équiper cette remorque.
Bon, tout s'est fait en interne. Mon bureau d'études a conçu le produit de A à Z. Nos panneaux qui servent à construire nos véhicules magasins répondent à la norme. Et donc, en fait, c'est un peu, je dirais entre guillemets, on est dans le Nord, une baraque à frites, mais vide d'aménagement et avec des plans de travail. On a renforcé la partie sanitaire avec des lave-mains, un petit sas pour que le laborantin puisse se changer toutes les 2 heures. Et ils testent à l'extérieur, ils testent dans le véhicule. On a mis des plexis pour qu'il n'y ait pas de contact entre la personne à tester et le laborantin. Et il passe ses mains à travers une vitre. Mais c'est tout à fait, ça répond tout à fait à ce qu'ils ont besoin.
En tout cas, c'est très astucieux et ça permet aussi, et c'est important, de continuer à faire vivre votre entreprise. Merci Arnaud Molinier et Hervé Diers d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1 13h40. La France bouge. Continue. Avec le déconfinement, la surveillance de la propagation du virus s'intensifie et de nouveaux moyens voient le jour pour nous aider à mieux contrôler l'épidémie. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
On est tous aujourd'hui plus ou moins masqués, nous respectons évidemment les gestes barrières, mais cela n'empêche pas complètement la propagation de l'épidémie. Alors pour mieux la cerner, du côté de Sophia Antipolis, une équipe s'est mise à réfléchir pour créer TADA, T-A-D-A, une solution de machine learning. Ça vous paraît un peu obscur ? Ne bougez pas, on va rejoindre Denis Bastiment qui nous attend. Bonjour Denis.
Oui, bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de My Data Labs et c'est à vous qu'on doit ce projet TADA. C'est vrai que comme ça a l'air compliqué quand on dit machine learning, mais c'est très utile pour les biologistes, pour les chercheurs, pour les virologues. C'est une solution d'intelligence artificielle, si je schématise, qui vient en quelque sorte à leur rescousse pour mieux comprendre les données qui vont leur parvenir pour analyser l'épidémie.
Oui, tout à fait, tout à fait. Juste rappel, la société, c'est My Data Model, c'est quoi déjà, c'est un nom compliqué. Donc,
oui.
Je suis désolé. Voilà. Donc oui, effectivement, on a développé une solution innovante d'analyse de données qui est basée sur les techniques d'intelligence artificielle et de machine learning, qui permet à des recherches, à des chercheurs, notamment dans le domaine médical, d'identifier en fin de compte, les variables discriminantes, quoi, les variables déterminantes, et donc de les aider à mieux comprendre leurs données et de les aider aussi à prendre des décisions à travers ce qu'on appelle quelque chose de complexe, qui est la génération de modèles prédictifs, c'est-à-dire qu'on est capable de prédire le futur à partir de données historiques.
Donc on va entrer dans la machine un certain nombre de données qu'on a accumulées sur le coronavirus. Elles vont être moulinées, si j'ose dire. Hein. Et avec ça, on va pouvoir prédire si quelqu'un peut être infecté ou ne pas l'être.
Oui, tout à fait. L'idée notamment, c'est on travaille par exemple avec le département d'enseignement de recherche de médecine générale de l'Université Côte d'Azur, qui nous a mis à disposition des données, qui sont des données qui sont collectées par les médecins généralistes. Et l'idée, c'est effectivement d'identifier en fin de compte les facteurs de risque, d'identifier en fin de compte les personnes les plus fragiles et les plus susceptibles, et de mettre en place des modèles prédictifs qui vont aider le médecin généraliste à prendre la bonne décision et à identifier les personnes à risque. Donc on est vraiment dans des outils d'aide à la décision pour les personnels soignants.
Et alors, comment est-ce que vous alimentez cette machine? Quels sont les facteurs clés de l'évolution de la maladie qui sont pris en compte?
Les facteurs clés, en fin de compte, au niveau des, on est sur ce qu'on appelle des données qui sont sur des questionnaires qui sont remplis par les médecins généralistes dans le cadre de la consultation. Donc, il y a à peu près une trentaine de symptômes qui sont identifiés. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie les symptômes les plus différenciants, les corrélations qu'il peut y avoir entre les symptômes, et vraiment d'aider le médecin, en fin de compte, à être capable de faire la bonne orientation et de prendre la bonne décision.
Ouais, c'est quelque chose qui fonctionne, hein, il faut le dire, déjà pour d'autres maladies, mais que là, vous avez appliqué au coronavirus. Et je précise que vous avez rendu gratuite votre licence pour les 3 mois qui viennent, c'est important.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc on travaille beaucoup avec la recherche médicale, et depuis, en fin de compte, le 15 janvier, nous avons décidé d'ouvrir la plateforme à l'ensemble des labos de recherche français et européens, pour qu'ils puissent utiliser notre technologie et mieux comprendre leurs données et les aider en fin de compte dans ces outils d'aide à la décision sur la maladie. L'idée, c'est vraiment d'aider les chercheurs à lutter contre le Covid.
Aider les chercheurs, c'est aussi ce qu'on fait en Ile-de-France. Il y a des machines qui vont être installées, je crois, dans les bâtiments des hôpitaux de Paris. Elisabeth,
oui,
pour réaliser des
machines robots, deux appareils qui font partie des 20 robots de grande capacité. Hein. On en avait parlé. Bon, ils ont été achetés en Chine par le ministère de la Santé. Et ils sont répartis dans les principaux CHU français. Ces deux robots sont capables de faire 4000 tests par jour. Et là, ils sont mis en place pour faire face aux demandes qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Pardon.
Denis Bastiment, vous restez avec nous. On va rejoindre Paul Duhan, qui est président et cofondateur d'une ONG, l'ONG Pays Impact. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour Raphaël.
Vous avez lancé, c'est tout récent, un site baptisé briserlachaîne.org. L'objectif, comme son nom l'indique, c'est de permettre à chaque personne diagnostiquée ou qui ressent des symptômes de protéger finalement les gens qu'elle a pu croiser. Comment ça fonctionne?
Exactement. Donc, comme son nom l'indique, briser la chaîne a pour but de briser les chaînes de transmission. Le fonctionnement est tout simple. En fait, on se connecte sur le site et c'est un outil qui va vous guider pas à pas pour vous aider à identifier ce qu'on appelle les cas contacts, c'est-à-dire les personnes que vous avez pu contaminer pendant votre période contagieuse, potentiellement avant même l'apparition des premiers symptômes, ce qui est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le Covid-19 est aussi facilement transmissible. Mmh. Donc on va identifier ces cas contacts et ensuite on va pouvoir les notifier en un clic avec un message préenregistré qu'on aurait écrit par nos soins, donc par Facebook, par texto, par WhatsApp, par ce que vous voulez. Et donc la personne ainsi notifiée pourra prendre ses précautions, elle aura accès à un petit lien qui pourra lui permettre de suivre ses symptômes facilement et de voir si elle a besoin de se faire dépister, si elle a besoin de se confiner et ainsi de suite.
Alors vous n'avez évidemment pas fait ça tout seul, il y a des développeurs, il y a des médecins aussi qui travaillent avec vous. On trouve sur le site des informations clés comme par exemple, et vous en parliez, la période de rétroactivité du virus.
Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment la raison pour laquelle c'est aussi compliqué d'endiguer cette épidémie. C'est parce que la période de rétroactivité du virus, avant même qu'on ait des symptômes, on peut se balader, on est pré-symptomatique. Et en fait, même si on ne sait même pas qu'on va être malade, on va pouvoir infecter des gens. Et donc, ce qui est vraiment important pour endiguer l'épidémie, c'est qu'à partir du moment où on détecte qu'elle a un signe de maladie, il faut être capable de revenir un peu dans le passé et de contacter ces personnes qu'on a vues à ce moment-là. Et donc avoir ce comité scientifique de médecins était très utile pour pouvoir donner les bons paramètres, c'est-à-dire combien de jours est-ce qu'on veut aller en arrière. Évidemment, si on va trop en arrière, on risque de notifier trop de personnes, et si on va pas assez, on risque d'en avoir contaminé.
Le bon étiage, c'est quoi? C'est combien de jours
alors,
en arrière?
Nous, on choisit 48, on prend 48 heures en avance, ce qui sont aussi les préconisations de l'OMS et celles du gouvernement.
Et donc, on remonte la chaîne, on essaye de rentrer en contact avec les gens qu'on a pu croiser. Comment on fait pour ça? Vous avez des questions types que vous posez?
C'est ça, on a des questions types. Donc, une fois qu'on vous a aidé via briserlachaîne.org, je vous invite à essayer l'application, c'est tout simple.
Bien sûr.
À partir du moment
je dis ça pour
où,
ceux qui nous écoutent, évidemment. Paul,
ah oui, tout à fait.
Hein.
Je renseigne. Enfin, j'invite l'audience à regarder le site briserlachaîne.org. Vous allez voir, c'est tout simple. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où on sélectionne la journée du début des symptômes, on va vous dire automatiquement quels sont les jours à aller vérifier. Donc, peut-être que, par exemple, ça va être du 8 au 12 mars. Et pour les jours du 8 au 12 mars, sur chacun des jours, on va vous poser des questions types. Et là, vous aurez l'option d'aller intégrer. Par exemple, voici un lien pour aller voir votre historique sur Google Maps, un lien pour aller voir votre historique de calendrier qui servent en fait d'aide mémoire. Donc, ces données qui sortent pas du téléphone, sont pas des données qui sont utilisées pour être croisées avec quelque chose d'autre. Donc, il n'y a pas d'enjeu de vie privée.
Ouais.
C'est uniquement des informations qui sont utilisées pour servir à vous aider à vous souvenir de qui vous avez pu voir pendant une journée donnée.
Oui, c'est important, effectivement, et on le voit, les moyens pour nous aider sont en train de se multiplier avec des choses vraiment formidables, comme celles que vous faites, Paul, mais vous aussi, Denis Bastiment, du côté de Sophia Antipolis. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Elisabeth, on va terminer parce qu'on parle quand même de dépistage en ce moment, on en parle beaucoup, les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que c'est automatique aujourd'hui et que dit précisément la loi?
Alors ça change, ça a beaucoup changé, mais ce qu'on sait, c'est que depuis lundi, toutes les personnes qui présentent des symptômes ou qui ont été en contact avec des malades confirmées, elles peuvent se faire tester. On l'a vu, jusqu'à présent, les tests virologiques qui permettaient de détecter l'infection étaient réservés seulement aux personnes fragiles ou aux cas sévères avec complications respiratoires. Aujourd'hui, c'est accessible. Sur prescription médicale, il ne faut pas aller seul dans un laboratoire en disant « bonjour, je voudrais me faire tester », ça c'est pas possible. Prescription médicale à toutes les personnes qui présentent des symptômes typiques du coronavirus ou qui ont été au contact d'un malade confirmé.
Voilà.
Donc vous allez voir votre médecin, vous prenez une prescription et ensuite vous allez au laboratoire.
Merci beaucoup Elisabeth pour ces précisions. On se retrouve demain à partir
demain,
de 13h évidemment.
Raphaël.
Nous ferons un bond en avant dans la France. D'après.
Ah.
13h52, vous restez avec nous. Roland Pérez, l'avocat d'Europe 1, va nous rejoindre pour vous répondre à toutes vos questions. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h55, c'est l'heure de retrouver Roland Pérez pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Bonjour Roland.
Et bonjour Raphaël et bonjour à tous.
L'avocat d'Europe 1 que vous contactez au 3921 ou sur le hashtag Radio Ouverte. On a Gilles qui nous pose une question pour vous. Il est chauffeur routier, il y a une baisse de travail qui se fait ressentir et son employeur souhaite le mettre en congé les deux prochaines semaines avant le chômage partiel. Il lui reste 15 jours de congé à prendre avant le 31 mai. Est-ce que c'est légal ?
Ah, quel casse-tête, Raphaël. Vous savez, ces fameux congés payés à prendre avant le 31 mai qui se conjuguent avec le chômage partiel qui a été décidé et mis en place pour finalement aider les entreprises. Alors, d'abord, Gilles, ce qui est beaucoup plus intéressant pour lui, c'est qu'il soit effectivement en congé payé, parce que là, ces congés payés vont lui être intégralement payés comme s'il avait travaillé, alors qu'en chômage partiel, on le sait, ce n'est que 84% de son brut qui lui est payé. Donc, il est peut-être plus intéressant pour lui d'être en congé payé. Ça, c'est la première affirmation. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la règle de droit du travail Covid-19 ou non est que les congés payés acquis pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, puisque c'est cette période qui nous concerne, doivent être pris avant le 31 mai 2020, sauf report de ceci selon l'usage de l'entreprise, s'il y a l'entreprise qui peut le prévoir, ou l'accord de l'employeur. Manifestement, là, on le voit, il n'y a pas d'accord de l'employeur. L'employeur veut vraiment liquider l'ensemble des congés. Si Gilles ne les prend pas, il ne sera pas indemnisé pour cela. L'employeur n'aura pas à lui payer. Donc, il vaut mieux pour Gilles, sincèrement, qu'il prenne ses congés et il n'y a pas d'autres choses à faire.
Voilà pour Gilles, chauffeur routier. Donc, on a une autre question pour vous, Roland. Elle nous vient de Jean-François, qui est un chirurgien dentiste à la retraite. Il veut savoir s'il y a un âge limite pour participer à la fameuse réserve sanitaire en raison des risques avec la maladie liés à l'âge. Il a 76 ans. Est-ce qu'il peut ou non se porter volontaire ?
Quelle belle idée. Je sais que vous en avez déjà parlé de cette réserve sanitaire dans l'émission Raphaël. On va rappeler juste que la réserve sanitaire consiste à intervenir en renfort en France ou à l'étranger en cas de situation sanitaire exceptionnelle comme peut l'être une épidémie, mais ça peut être aussi une catastrophe naturelle, un attentat. Cette réserve est composée normalement effectivement de professionnels de santé volontaires, par exemple un directeur d'hôpital, un médecin, un psychologue, un pharmacien, un infirmier, pourquoi pas donc comme Gérard un dentiste. Tout le monde peut donc rejoindre cette réserve sanitaire. Simplement, il y a des restrictions. Même si on est à la retraite, on peut parfaitement participer à cette réserve sanitaire. D'autant plus que durant la crise liée au Covid-19, le ministère des Solidarités et de la Santé a demandé justement à ce qu'on privilégie ce dispositif qui a été mis en place et à se faire connaître auprès du ministère de la Santé. Simplement, en ce qui concerne Gérard qui est à la retraite, il faut savoir que ce dispositif n'est ouvert qu'aux personnes qui sont à la retraite depuis moins de 5 ans. Ah. Or, compte tenu de son âge, 76 ans, s'il a travaillé peut-être encore jusqu'à 70 ans, 71 ans, 72 ans, et qu'il n'a pas demandé encore sa mise à la retraite et qu'on est dans ses moins de 5 ans, Gérard pourra parfaitement rejoindre la réserve sanitaire. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, il ne pourra pas apporter son service, son soutien à cette réserve sanitaire. Il peut se renseigner de toute façon sur santépublicfrance.fr. Il peut remplir le formulaire, mettre un certain nombre d'indications le concernant et il verra s'il est ou non éligible. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient d'ailleurs le faire, ils peuvent s'adresser à Santé Publique France et même s'ils travaillent actuellement, même s'ils sont salariés, ils peuvent, sur leur jour de congé, en accord avec l'employeur ou sur un certain nombre de jours en accord toujours avec l'employeur, eh bien participer à cette réserve sanitaire pendant cette période effectivement compliquée, douloureuse pour tout le monde.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Roland, on vous retrouve demain juste avant 14h pour répondre
avec plaisir
aux questions des auditeurs. 3921, hashtag radio ouverte. Et moi, je vous donne rendez-vous dès midi. Ne bougez pas, dans un instant, Christophe Ondelat pour Ondelat raconte.